Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin. J'espère que vous avez passé une belle semaine. On est ensemble jusqu'à midi. Un programme très contrasté aujourd'hui. De la musique romantique avec Chopin et Mendelssohn, à la musique électro, mais associée aux textes médiévaux de la légendaire Hildegard von Bingen. Et pour célébrer le 150e de la naissance de Ravel, un concert très original le 16 juin à la salle Cortot, à l'occasion de la sortie d'un disque associant les textes de contes poétiques mis en valeur par la voix de Vincent Figuri à des musiques qu'il a savamment choisies. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir justement Vincent Figuri, à la fois promoteur et architecte de ce très beau disque qui sort le 13 juin sous le label Salamandre. Bonjour Vincent Figuri.
Bonjour Christophe.
Permettez-moi d'être impressionné par votre très riche parcours et vos compétences nombreuses. Nos auditeurs vont pouvoir en juger. Grâce à votre double formation de musicien et de comédien, vous vous êtes imposé dans les rôles de récitant avec la musique. Vous avez fait des études de piano et de musique de chambre. Parallèlement, vous avez accompli un cursus théâtral au cours Florent, puis à l'université de Berkeley en Californie, ainsi que des études de chant et d'écriture. Et puis vous découvrez le mélodrame musical que vous explorez depuis 30 ans, un répertoire où le théâtre côtoie la musique. Des classiques comme l'histoire du soldat de Stravinsky ou l'histoire de Babar de Poulenc, et vous révélez aussi des chefs-d'œuvre oubliés de Liszt, Martinu, Sibelius ou Jacques de La Prelle. Vous créez des spectacles originaux autour de Victor Hugo pour son bicentenaire, vous vous produisez dans des salles prestigieuses à Paris et en Europe, et dans des festivals comme celui d'Auvers-sur-Oise. Voisin, vous collaborez avec des orchestres comme l'Orchestre de Paris, le Philharmonique tchèque, et des musiciens tels que les pianistes Michel D'Alberto, Mikhail Rudy, les ensembles Carpe Diem et Calliope, et le quatuor Isaïe. Vous avez été producteur sur France Musique, médiateur pour élargir l'audience de la musique classique avec l'Orchestre National de France et l'ONDIF. Et en plus, vous êtes agrégé de musicologie et titulaire de 2 masters en Sorbonne. Vous avez publié un recueil poétique intitulé « L'offrande poétique » et vous nous présentez votre 7e album pour le label Salamandre après ceux de Borislav Martinu, Jean Sibelius, Franz Liszt, Alfred Bruno, Jacques de La Prelle, Prokofiev et Moussorgski, qui ont tous reçu un très bel accueil de la part de la critique. Ai-je oublié quelque chose d'important, Vincent Figuri ?
D'important, non, certes pas. Non. Peut-être que je suis plutôt autour des 10 albums, à vrai dire, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis uniquement en numérique, pour être honnête.
Très bonne précision, Vincent Figuri. Alors j'aurais une première question pour éclairer nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un mélodrame musical ?
Un mélodrame musical, ça c'est le mot qui tue, le mot mélodrame. Il fait un petit peu fuir un certain public. C'est un mot qui a plusieurs significations. Il y a le mélodrame théâtral des boulevards au 19e siècle. Et puis il y a le mélodrame musical qui remonte lui à plus ancien. C'est un genre qui voit le jour à la fin du 18e siècle. Et c'est un genre qui a été promu par Jean-Jacques Rousseau, tout simplement. Ah. Le premier mélodrame, je crois, est né de la plume de Jean-Jacques Rousseau. Je n'ai pas une grande estime de Jean-Jacques Rousseau, musicien, et je me dis souvent que c'est peut-être parce qu'il était un musicien frustré qu'il s'est dirigé vers un genre un petit peu... qui mêlait justement la littérature et la musique. En tout cas, c'est lui qui a écrit le premier mélodrame donc en France à la fin du XVIIIe siècle. C'est un mélodrame qui s'intitule, je crois, Pygmalion, sur un de ses textes. Et c'est un genre qui a énormément plu à la cour. Et je pense qu'il y avait quelques musiciens importants qui ont entendu, si ce n'est à la cour, à cette époque-là. En tout cas, ce genre s'est exporté et il a fait florès à Mannheim, si j'ai bonne mémoire, au début du 19e siècle, à la fin du 18e. Je pense pas que je me trompe de date. Et bref, c'est un genre qui a été entendu par Mozart et Benda. Benda, Georg Benda.
Un tchèque.
Un tchèque, absolument, oui. Et ce tchèque Benda s'est entiché de ce genre et il en a composé plusieurs. Ce sont les mélodrames de Benda qui ont été entendus par Mozart. Mozart lui-même avait dit que c'était un pis-aller absolument formidable au récitatif d'opéra. Il en a composé quelques-uns qu'il a intercalés dans ses opéras de jeunesse. Et puis il s'en est détaché. Il en a même écrit un qui est perdu, qui s'appelle Semiramis. C'est très dommage pour l'histoire de la musique. Et Benda, lui, a fait école en Allemagne, bien sûr, mais aussi en République tchèque. Et donc, il y a une tradition du mélodrame en République tchèque qui remonte à la fin du XVIIIe siècle et qui ne s'est jamais tarie. Tous les grands compositeurs tchèques ont écrit et composé des mélodrames, de Martinů à Smetana, en passant par Dvořák, et même Jana Tchèk. Jana Tchèk en a composé un qui est perdu aussi. Ça, c'est vraiment dommageable. Et puis, ce genre a aussi fait école, donc, en Allemagne au début du 19e, avec des grands compositeurs comme Schumann, comme Liszt, que j'ai enregistré tous les deux, d'ailleurs, avec Pascal Amoyel, il y a 2 ans, je crois.
Je pensais à Schumann, Le Paradis et la Pairie, peut-être.
Alors, Le Paradis et la Pairie, c'est un oratorio, je crois.
Oui.
Non, les mélodrames de Schumann sont des œuvres pour piano et comédien.
Ah oui.
En fait, uniquement cette formation. Et il y a d'autres compositeurs qui s'y sont intéressés, notamment Richard Strauss, qui en a écrit un très grand sur un texte de Tennyson qui s'appelle Enoch Arden, et quelques autres pièces. Bref, il y a pas mal de compositeurs qui en ont écrit soit pour piano ou musique de chambre et comédien, soit qui l'ont inclus dans des opéras. Beethoven l'a inclus dans ses musiques de scène. Les musiques de scène sont toujours très propres à ce genre de choses. Et il y a aussi une école française qui est née surtout à la fin du 19e siècle avec des pièces de salon autour de Massenet, autour d'Alfred Bruno que j'ai enregistré. Enfin, Alfred Bruno, c'est plus qu'une pièce de salon. C'est une très très belle pièce sur un texte de Musset. C'est une œuvre que j'adore, qu'on devrait jouer d'ailleurs, qu'on entend nulle part sauf sur le disque.
Avec toutes ces précisions, on sent l'agrégé de musicologie en vous, Vincent Figuery, si je peux me permettre.
Oui.
Revenons à votre disque qui sortira juste avant le concert du 16 juin à la salle Cortot pour commémorer le 150e de la naissance de Ravel. Et là, vous avez associé Mamerlois à des extraits du conte de fées de Charles Perrault.
Alors, en fait, Mamerlois, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs auteurs. C'est-à-dire que sur la pièce originale pour piano à quatre mains, Ravel a indiqué les incipits des textes desquels il s'était inspiré pour quelques contes comme L'Aidronette, La Belle au Bois Dormant, La Belle et la Bête. Donc, il y a les contes de Perrault, bien sûr. Il y a aussi Madame d'Aunois et Madame le Prince de Beaumont. Et en fait, ce Mamerlois de Maurice Ravel est né d'une circonstance très particulière, puisqu'à l'époque, je n'avais jamais fait de théâtre, j'étais au conservatoire de Grenoble, on faisait de la musique de chambre, comme tout musicien qui se respecte, puisque j'étais en classe de piano à cette époque-là, au conservatoire de Grenoble, et il y avait dans la même classe de piano que moi, un musicien qui s'appelle Franck Villard, on commençait à faire de la musique de chambre ensemble, avec piano, violon et clarinette. Et puis, le répertoire de piano, violon, clarinette étant très réduit, on s'était lancé dans une grande aventure sans trop se préoccuper du répertoire. Donc, on se partageait, Franck et moi, Franck Villard au piano et moi aussi au piano, on se partageait le programme en sonate, avec les quelques trios qui existaient. Et on se demandait comment terminer le concert à quatre. On n'avait aucune solution pour terminer le concert à quatre, il n'y avait pas de quatre mains. Et donc, c'est à ce moment-là que je dis, Franck avait transcrit pour piano, violon, clarinette le Mamerlois de Ravel, et j'ai dit, je vais faire un texte sur cette musique. Et c'est là, ça a été comme ça que j'ai essuyé mes premiers plâtres de récitant.
Là, ce ne seront pas vos premiers plâtres, incontestablement. On va vous entendre dans la troisième pièce, L'Aidronette, impératrice des pagodes, avec Dana Ciocarli, piano, Christophe Giovanetti, violon, et Philippe Cuper, clarinette.
C'est elle, l'Aidronette. Elle arrive sur son char de papillon. Tout son royaume rit de la retrouver. Les fleurs lui font grande révérence. Les insectes forment un cortège. Pagodes et pagodines se mettent à danser et à jouer des instruments. de son papillon. Elle traîne sa longue robe de pétales. Elle se déshabille et se met dans le bain. Toute la nature retient son souffle. Elle s'ébroue en sortant de l'eau. D'étoiles pour enchanter son peuple, puis grimpe sur son char et repart dans l'allégresse. Elle est partie.
Maurice Ravel, Laidronette impératrice des pagodes. Extrait de Mamerloi. Écoutons sans transition la dernière des cinq pièces, Le jardin féerique, où il n'y a pas de texte, mais seulement la musique de Ravel. Thank you. Maurice Ravel, c'était le Jardin féerique, extrait de Mamerlois, la dernière des pièces. Vincent Figuri, Mamerlois sera interprété lors du concert accompagnant la sortie de votre disque, lundi 16 juin à 20h, mais il y aura d'autres pièces de Ravel.
Absolument, oui. J'ai pensé que c'était une bonne idée de fêter les 150e anniversaire de la naissance de Ravel, qui est né en 1875, lors de ce concert et de la sortie de ce disque. Et donc, Philippe Cuper, qui était clarinettiste solo à l'Opéra de Paris, m'a proposé de jouer le mouvement lent du concerto en sol dans une transcription, une adaptation très exactement, qu'il a faite à partir d'une transcription de Gustave Samazoy. Transcription pour orchestre à cordes et piano. Et Philippe Cuper s'est emparé de cette transcription pour jouer ce mouvement lent pour clarinette et piano.
Mouvement qui est l'un des plus beaux de l'histoire de la musique.
Absolument sublime. Oui, c'est un mouvement qui a coûté beaucoup de patience et de difficultés à Ravel, même si on n'imagine pas du tout cela quand on l'entend. C'est d'une fluidité absolument extraordinaire. Et donc, c'est l'occasion de découvrir une transcription très originale pour piano et clarinette. Et puis, Philippe jouera aussi la Habanera, qui est une pièce de chant, si je ne me trompe, une vocalise étude en forme de Habanera que Ravel a composée pour le concours de déchiffrage des chanteurs au conservatoire. À vrai dire, ces vocalises études, on les entend plus jouer par les instrumentistes qui s'en emparent que par les chanteurs qui les négligent.
Oui, absolument.
Et puis, nous entendrons aussi le 16 juin à Corto, Christophe Giovanninetti, brillantissime musicien et violoniste, qui jouera le fameux Tzigane de Maurice Ravel. Et nous enchaînerons pour terminer la soirée avec le Mamerlois dans la transcription de Franck Villard pour piano, violon et clarinette et narrateur.
Au programme de ce concert, vous jouerez une œuvre rare du compositeur russe Nikolaï Tcherepnine, Le Conte du pêcheur et du poisson.
Oui, oui. J'aime bien raconter des histoires. Et ce Conte du pêcheur et du poisson de Pouchkine, Tcherepnine, je l'avais en magasin depuis très très longtemps. J'ai une bibliothèque de partitions pour musiciens et narrateurs absolument considérable. Et cette partition de Nikolaï Tcherepnine est attachante à plus d'un titre. C'est une suite pour piano seul assez considérable qui dure 25 minutes. Et Tcherepnine a subtilement intercalé le texte de Pouchkine entre ces 6 pièces. Mais il ne propose que des extraits du texte de Pouchkine. Et assez curieusement, dans l'enchaînement des 6 pièces pour piano seul, il y a un certain temps de pause dans certaines pièces, surtout au début de la suite. Et donc, évidemment, moi, j'ai l'œil immédiatement pour cela. Parce que quand je vois une pièce qui a été écrite d'après une source littéraire importante, un conte de Pouchkine qui est connu internationalement, qui est connu d'ailleurs sous un faux titre, puisque le titre sous lequel il est connu en français, c'est plutôt le conte du pêcheur et du poisson d'or. Il est question d'un poisson d'or dans la suite, mais Pouchkine a écrit un conte du pêcheur et du poisson. J'ai tout de suite envie de raconter le texte en prise avec la musique, et donc de glisser une partie du texte sur la musique. Alors, c'est un travail très très intéressant, mais assez délicat à faire, parce que finalement, parler sur la musique, c'est quelque chose de très subtil. Ça ne s'improvise pas, en tout cas. Vous ne pouvez pas parler en même temps que la musique exprime quelque chose. Il faut trouver les moments de pause qui suivent la narration, ou les moments de narration qui vont avec la musique. Enfin voilà, j'ai fait ce travail sur cette suite de Tcherepnine et elle est enregistrée dans le dernier disque Salamandre. Et puis j'espère que le public de la salle Corto adhérera à cette version qui est en première mondiale. Hein, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent.
Eh bien, on va écouter la première des 6 pièces du Conte du pêcheur et du poisson. Texte de Pouchkine, musique de Tcherepnine.
Un vieux et sa vieille vivaient au bord de la mer bleue. Ils vivaient dans une cabane délabrée depuis exactement 33 ans. Thank you. la vieille filait à son rouet, le vieux pêchait à la Seine.
Nous écoutions la première des pièces du conte du pêcheur et du poisson pour piano et narrateur avec la traduction de notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, Vincent Figuri. Alors dites-moi Vincent, c'est une des difficultés, la traduction, mais il y a aussi celui du rythme, parce que le rythme de, j'allais dire, de celui qui parle n'est pas le même que celui ou ceux qui sont les musiciens.
Vous posez deux questions en une, cher Christophe.
Certes.
Donc, la question de la traduction est très sensible pour moi parce que, en général, quand je maîtrise un tant soit peu les langues qui sont les langues originales des textes, je les traduis moi-même pour des raisons de confort, pour pouvoir ensuite modifier la traduction, justement, en fonction du rythme de la musique. Alors, si je ne parle pas la langue, comme ça a été le cas avec Sibelius et ses pièces suédophones et non pas en finlandais, ou alors avec des pièces hongroises ou tchèques, je demande toujours à avoir un mot à mot, et c'est à partir de ce mot à mot que je fais moi-même ma propre adaptation. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je le vous disais juste avant, l'obligation de suivre le rythme de la musique impose des transformations souvent de la traduction et donc du texte. Le rythme, la disposition du texte sur une musique ne se fait pas du tout au hasard. Vous ne pouvez pas, comme je le disais tout à l'heure, parler en même temps que la musique exprime quelque chose. Si vous avez une très belle phrase de hautbois et que vous vous mettez à parler en plein milieu sur cette phrase de hautbois, l'auditeur est obligé de choisir entre la phrase de hautbois et votre texte et au final, il ne peut pas choisir. C'est-à-dire qu'il est contraint d'entendre les deux et il n'entend rien du tout. Donc, il y a un travail important qui se fait en amont sur la partition.
Donc, quand vous êtes, un lecteur ou un diseur, finalement, il est essentiel pour vous d'être un musicien et donc de pouvoir lire une partition.
Je ne me serais jamais lancé dans ce répertoire si je n'avais pas été musicien. C'est indispensable. D'abord, les textes figurent tous sur des partitions, sauf à faire des montages, ça m'est arrivé d'en faire, mais fort peu. Les textes, les partitions, les œuvres originales sont des partitions sur lesquelles est disposé un texte. Et là, on touche aussi à un autre point sensible, c'est le point de vue de l'éditeur. Puisque, en général, même sur les partitions originales, le texte est formal disposé et il faut refaire une mise en place de A à Z. Parce que la contrainte de l'éditeur pour resserrer un texte littéraire sur, par exemple, deux mesures de musique, ça posait surtout dans le passé des contraintes considérables. Aujourd'hui, je pense qu'avec le numérique et les éditions avec l'informatique, ça serait beaucoup plus facile d'aérer sans doute la partition, mais au 19e siècle, je pense que ces procédés n'existaient pas. Et donc, Quand vous prenez en main une partition, je pense au mélodrame de Liszt, par exemple, même si cette Liszt est un de ceux qui a le mieux maîtrisé le rythme de la parole avec le rythme de la musique, il y a nécessairement énormément d'arrangements à faire par rapport au tempo de la musique et aux endroits où vous devez parler. Si vous parlez avant la double croche, eh bien c'est pas sur la double croche et c'est pas après la double croche. Donc toutes ces choses-là se mettent en place d'une façon extrêmement minutieuse. Sinon, vous ne pouvez pas capter un public avec un musicien et un narrateur qui jouent ensemble, parce que c'est de la musique de chambre finalement.
Bah écoutez, c'est très clair. On va poursuivre avec un autre extrait du conte du pêcheur et du poisson associant Tcherepnine et Pouchkine avec la cinquième pièce, Le vieux affronte sa vieille.
Le vieux affronte sa vieille. Que voit-il ? Un palais impérial. À table est assise une tsarine mangeant du pain d'épices. Boyards et nobles la servent en lui versant des vins étrangers. À ses côtés, un garde formidable est posté avec une hache sur les épaules. Voyant, le vieux prend peur et s'incline aux pieds de sa vieille. Salut, terrible tsarine. Maintenant, ton âme est comblée. La vieille ne lui jette pas un œil et donne ses ordres du regard. Boyards et nobles accourent et poussent le vieux dans le dos. À la porte. Ils sont prêts à l'achever et se moquent de lui. Vieil ignorant, sache qu'on ne s'assoit pas dans le traîneau d'autrui.
Vincent Figuri récitant et Dana Ciocardi piano interprétaient la cinquième pièce du conte du pêcheur et du poisson associant Tcherepnine et Pouchkine. Vous serez tous les deux avec en plus Christophe Giovanninetti violon et Philippe Cuper clarinette sur la scène de la salle Corto à Paris, 78 rue Cardinet dans le 17e, lundi 16 juin à 20h pour le concert accompagnant la sortie de votre disque Conte publié par le label Salamandre. Dans des pièces qui seront toutes des transcriptions originales et des premières mondiales, il faut le souligner. Comment fait-on, Vincent, pour se procurer des billets ?
Pour les billets, pour le concert du oui. 16 juin, eh bien, c'est très simple. On va sur le site de la salle Corto, on clique sur la fiche et on réserve en ligne.
Très bien, bien, revenons à votre disque avec ces courtes pièces de Reynaldo Hahn sur un texte de Louis Montaigu, Au clair de la lune, conte en musique, que vous avez adapté à la musique, Vincent Figuri.
Oui, je l'ai adapté à la musique parce que c'est une petite suite de pièces de piano comme Tcherepnine. Bon, ce sont des pièces beaucoup plus modestes que celles de Tcherepnine parce qu'elles ce sont des vignettes musicales en fait. Vignette musicale que Reynaldo Hahn a composée quand il était jeune, très jeune. C'est une de ses premières œuvres. Et Louis Montaigu était un cousin, je crois. C'était un de ses parents. C'était un talentueux illustrateur. Et aussi, il écrivait, il maniait un peu la plume. Donc, il a proposé un texte, une petite historiette assez naïve à Reynaldo Hahn, qui s'en est emparé et qui l'a illustré par une quinzaine de vignettes musicales. Quand j'ai joué cette œuvre la première fois, j'avais un peu peur parce que l'histoire est vraiment désuète. Et je me suis dit, c'est pas possible, le public ne va pas du tout adhérer à cela. C'était avec Noël Lee, figurez-vous, une personnalité que j'adorais, un pianiste merveilleux.
Américain.
Oui, américain. J'avais une vraie complicité avec Noël, qui nous a quittés en 2013. Et donc, on a joué ça, on a fait la première mondiale de cette pièce dans une salle parisienne et puis à l'étranger aussi, je crois. Et en fait, à ma grande surprise, le public a énormément apprécié ce discours poétique sur la musique, parce que à mon corps défendant, j'ai fait avec ce Reynaldo Hahn un peu comme je le fais habituellement. J'ai voulu glisser une partie du texte sur les pièces musicales, parce que le texte est donné avant chaque pièce. Mais il est très sobre, il est très il n'y a pas beaucoup de texte, donc c'était très facile d'en glisser une partie sur la musique.
Eh bien, on va écouter successivement Promenade, Les Orties et le Vent de Reynaldo Hahn, avec Vincent Figuri, bien sûr, récitant.
Sur le chemin vert qui monte, déroulant sous leurs pieds un tapis de mousse qui sent bon, elle et lui, l'éternel amour, deux 20 ans beaux et candides, marchent enlacés dans le soleil couchant. Venez, nous serons mieux là-bas. Et plein de choses à se dire, il cherche le coin propice aux aveux, jusqu'aux orties. Je vous demande un peu de quoi se mêlent ces vertueuses orties. Jusqu'aux orties qui s'accrochent aux plis de sa robe et s'efforcent de la retenir. Garde, ne va pas plus loin. Il est tard. Retourne. Puis c'est le vent qui, de sa grande voix salubre et forte, la conseille.
droit comme la conscience. Large rafale, à grands coups, il effeuille, il éparpille leurs frêles propos d'amour.
Reynaldo Hahn, trois pièces extraites de Au clair de la lune, conte en musique, sur un texte de Louis Montaigu, adapté et dit par Vincent Figuri, notre invité sur IDFM Radio. Un extrait de votre très beau disque, Conte, qui sort sous le label Salamandre.
Salamandre, oui, c'est le label que j'ai créé il y a maintenant 13 ans, je crois, pour enregistrer une partie du répertoire que j'ai exhumé depuis 30 ans. Je fais un énorme effort sur le travail éditorial qui m'a toujours plu, aussi bien dans le livre que dans le disque. Je mets beaucoup d'illustrations dans le livret, je mets beaucoup d'illustrations aussi dans le digipack. Et donc, je ne saurais trop inviter vos auditeurs à être curieux en se procurant ce disque qui est très riche de visuels comme de travail pour les oreilles et de nouveautés en première mondiale.
Il fallait le dire et vous l'avez dit. Et je dois dire que c'est tout à fait vrai. J'insiste là-dessus pour Merci. Nos auditeurs. Rappelons que vous serez en concert, Vincent Figuri, sur la scène de la salle Corto à Paris, lundi 16 juin à 20h, pour accompagner la sortie de cet album dans un hommage à Maurice Ravel dont vous fêterez le 150e anniversaire. Merci beaucoup Vincent Figuri.
Merci à vous.
Bonne journée et bon concert.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Avec son nouvel album Chopin Intime qui paraît chez Alpha Classics, Justin Taylor délaisse son ensemble Le Consort pour satisfaire à sa passion des claviers anciens et sa volonté d'associer chaque répertoire avec les instruments historiques les mieux appropriés. Justin Taylor s'est rendu compte de l'immense complicité qui existait entre les préludes et les pianinos Pleyel. Certains préludes ont d'ailleurs été composés par Chopin sur cet instrument lors du séjour à Majorque avec George Sand en 1838. C'est le cas du prélude numéro 16, opus 28 en si bémol mineur. Après le 16e prélude de Chopin par Justin Taylor, qui jouait un pianino Pleyel, véritable frère jumeau, fabriqué quelques mois après celui joué par Chopin lors de son séjour à Majorque et présentant les mêmes caractéristiques. Un petit piano droit comportant 6 octaves et demi au cadre en bois avec un timbre un peu voilé dans les aigus. Un piano avec peu de tension permettant une grande souplesse dans le timbre. Peu onéreux et léger, le pianino a rencontré un gros succès auprès des amateurs comme des musiciens. Mais sa fabrication n'aura duré que quelques années, entre 1835 et 1842. Écoutons le Nocturne opus 9 numéro 2 en mi bémol majeur de Chopin sous les doigts de Justin Taylor. Thank you. Frédéric Chopin sur IDFM Radio. C'était le Nocturne Opus 9 numéro 2, extrait de son nouvel album Chopin Intime, qui dégage un charme délicieux, paru sous le label Alpha Classics. Chopin était un grand admirateur et ami de Bellini. Il a lui-même arrangé la partie orchestrale de l'air de Norma, peut-être pour accompagner son ami, la chanteuse Pauline Viardot. Justin Taylor s'est inspiré de ce manuscrit autographe pour sa propre transcription de Casta Diva de Bellini. Casta Diva, l'air fameux de Norma, l'opéra de Bellini, dans un arrangement de Justin Taylor sur un manuscrit de Chopin. Nous allons quitter Justin Taylor, interprète de Chopin, jouant le délicat pianino Pleyel de 1838 avec le très court prélude numéro 14 en mi bémol mineur. Frédéric Chopin, c'était le 14e prélude opus 28 dans l'interprétation historiquement informée de Justin Taylor sur un pianino de 1838. Extrait d'un disque qui fait redécouvrir la musique de Chopin au plus près de l'univers du compositeur, paru sous le label Alpha Classics, une grande réussite.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
L'Orchestre Philharmonique de Rotterdam, dirigé par Lahav Chani, consacre son nouvel album sorti sous le label Warner Classics à Felix Mendelssohn. Trois œuvres sont à l'honneur. La symphonie numéro 3, dite écossaise, l'ouverture Mer calme et heureux voyage, et trois romances sans parole, subtilement orchestrées par Lahav Chani. Composée après un voyage en Grande-Bretagne en 1829, la symphonie écossaise s'inspire des paysages brumeux et des ruines près d'Édimbourg qui ont marqué Mendelssohn. Écoutons le second mouvement, un scherzo assez heureux et léger. Le thème évoqué à la clarinette rappellerait la cornemuse, élément pouvant avoir donné la qualification d'écossaise à la symphonie.
Thank you.
deuxième mouvement de la symphonie écossaise de Mendelssohn par l'Orchestre philharmonique de Rotterdam sous la baguette de Lav Chani, qui a lui-même orchestré avec beaucoup de talent trois romances sans parole. Nous allons refermer notre émission en apesanteur avec une composition de Hildegard von Bingen arrangée par David Chalmin avec la voix de la soprano Barbara Hannigan. C'était la musique de Hildegard von Bingen dans un arrangement électro qui fonctionne très bien de David Chalmin, porté par la voix de Barbara Hannigan et les pianos des Sœurs Labeck, extrait de l'album Chants électriques sorti chez Alpha. Quant à moi, Christophe Gravereau, il est temps de vous donner rendez-vous demain dimanche à 11h. Merci à Nicolas à la technique et restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.